Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Création d'une armée de réserve et la restauration du service militaire obligatoire, ce sont entre autres les éléments contenus dans le document de politique de défense de la RDC, un document présenté officiellement hier par le ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabane. Et puis l'archevêque de Mbandaka Bikoro appelle la population de l'Équateur à se faire enrôler massivement. D'après Mgr Ernest Senghoku, c'est un devoir civique pour tout citoyen. Et en exemple, il s'est fait enrôler au lycée Essengo dans le centre-ville de Mbandaka. Enfin, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL a publié lundi un rapport sur les observations préliminaires de deux premières journées de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Luc Loutala, son chargé de communication. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. La dissuasion externe et la dissuasion interne constituent les objectifs principaux du document de politique de défense de la RDC. Ce document a été présenté ce mardi 27 décembre ici à Kinshasa par le ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda. C'était lors de la conférence de presse conjointe avec son collègue des médias Patrick Mouyaya. Ce document comprend entre autres la création d'une armée de réserve et la réinstauration du service militaire obligatoire. Gilbert Kabanda est au micro de Paul Matendo.
Les anciens militaires, certains sont ici, certains anciens généraux. C'est anormal d'avoir une armée d'active sans une armée de réserve. Cette politique de défense a décidé d'instaurer la réserve. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires. Et généralement, les vocations ne naissent pas au-delà de l'âge adulte. Les vocations naissent souvent entre 10 et 15 ans. Mais ceux qui veulent devenir militaires à cet âge-là, chez nous, ne sont pas pris en charge. Nous avons pensé qu'il est temps d'instaurer une école de cadets pour nos vocations militaires. La loi fondamentale de notre pays prévoit un service militaire obligatoire sous certaines conditions légales. Nous pensons qu'il est temps que nous puissions étudier des modalités de créer un service militaire obligatoire pour notre jeunesse, notamment ceux qui terminent les humanités.
Autre nouvelle, en territoire de Kabambari, deux chefs de village de Lukolo et Mutuka sont portés disparus depuis une semaine dans le groupement Banyabimba, secteur de Babouyou, au Maniema voisin. Les victimes seraient kidnappées avec quatre ressortissants chinois par des hommes armés identifiés comme des éléments d'une faction du groupe Mai Mai, Yakutumba coalisé aux miliciens à Panapale. Selon des sources locales, les agresseurs exigent la rançon d'une grosse somme d'argent pour relâcher les victimes. Fiston Goma.
D'après plusieurs sources concordantes à Kalonda Kibuyu, les miliciens expliquent cet enlèvement par le fait que les deux chefs des villages mangent seuls les redevances ou coutumières payées par les Chinois. Une somme de 5 000 $ américains débloquée chaque mois est partagée entre les autorités provinciales, territoriales et du secteur à travers ces deux chefs des villages Lukolo et Mutuka. Cependant, aucune action de développement n'est visible dans le milieu, souligne la nouvelle société civile congolaise. Son président Djidje Kalonda demande au nom de la population civile locale que les exploitants miniers respectent le cahier des charges leur soumis et que l'exploitation de l'or se fasse de manière officielle. Signalons que depuis 2013, une société chinoise non autrement identifiée exploite de l'or sur la rivière Kimbe et Luiko dans les territoires de Kabambar et secteur de Babouyou. De son côté, la chef du groupement Banyabemba, Sidonia Mulindi, dit réclamer la libération immédiate de ces personnes enlevées avant toute réclamation. Pour l'instant, aucune réaction des FRDC dont les unités sont basées à Lulimba dans les territoires de Fizi, à 46 km de la forêt, entre Force Bendera et le village Lambokatenga où les bourreaux ont amené leurs victimes. Douvira Fistongo Momayabala, Radio Okapi.
À Kenge, chef de la province du Kwango, un policier poursuivi pour meurtre a été condamné lundi 26 décembre à la peine de mort et deux autres ont été condamnés à 20 ans de prison pour viol sur enfant. Ces condamnations ont été prononcées par le tribunal militaire garnison de Kikwit, Kwilu et Kwango qui a siégé du 19 au 26 décembre courant en premier degré en matière répressive en foraine. Outre ces trois condamnations, d'autres militaires et policiers ont aussi écopé des peines pour différentes infractions, notamment la violation des consignes, le vol à mains armées et autres. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, L'archevêque Nembanda Kabikoro a lancé ce mardi l'appel à tous les fidèles catholiques à aller s'enrôler massivement. Monseigneur Ernest Ngboko l'a dit à l'issue de son propre enrôlement au centre d'inscription du lycée Essengo situé au centre-ville de Mbandaka. Pour lui, c'est un devoir pour tout citoyen, mais étant donné les échéances d'un mois et les difficultés logistiques constatées ça et là, il invite les autorités compétentes à la prolongation de l'enrôlement à l'Équateur. Monseigneur Ernest Ngboko est au micro de Paul-Richard Malengela.
Comme tout bon citoyen, je dois donc être en ordre avec d'abord mes devoirs de citoyen, entre autres le droit de voter. C'est la raison pour laquelle depuis le samedi dernier, le président de la République lui-même a annoncé l'enregistrement dans notre province de l'Équateur. Et je me suis fait donc les devoirs d'un bon citoyen également pour que je vienne m'enrôler en vue des élections prochaines. Comment est-ce qu'on peut donc bénéficier de tous les avantages qui sont liés à notre état, donc des citoyens congolais, sans avoir donc une pièce d'identité. C'est la raison pour laquelle je les appelle vivement à pouvoir s'enrôler. Dès maintenant, il ne faut pas qu'ils attendent. Étant donné que les échéances se sont fixées tout simplement à un mois, qui est presque rien, alors il ne faut pas qu'ils attendent à la fin pour pouvoir se rouer, en tout cas dans les différents centres donc d'enrôlement. Étant donné le contexte dans lequel nous vivons, mais également les suffisances du matériel donc approprié donc pour ces opérations, si c'est à Mbandaka, c'est comme ça. Alors à l'intérieur, là où il n'y a même pas de route donc pour déployer le matériel, c'est vraiment irréaliste. Donc un mois, je crois que c'est insuffisant. Je crois que l'État congolais va en tenir compte. Autrement, bon, beaucoup de citoyens ne vont pas voter.
Notons que quelques prêtres et religieux catholiques se sont fait également enrôler à la suite du prélat catholique. Pour sa part, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, a eu sa carte d'électeur hier mardi matin. Il a été enrôlé au collège Saint-Raphaël de Kinshasa. Le cardinal dit avoir constaté quelques anomalies, notamment la qualité de la carte actuellement délivrée. On dirait une copie, l'image est en noir et blanc, contrairement à celle qu'on avait avant, s'est-il exprimé. Il appelle néanmoins la population à se faire enrôler massivement. Et puis, identifier les défis et lever les obstacles qui pourraient bloquer la participation des femmes au processus électoral de 2023. La réflexion était au centre d'un atelier de sensibilisation sur le thème « Femmes face aux enjeux électoraux » organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, avec l'appui de la section des affaires politiques de la MONUSCO à Bounia en Ituri. Cette rencontre avait pour but d'encourager ces femmes à braver la peur et surtout à s'intéresser aux activités politiques afin d'obtenir des postes dans les instances de prise de décision. Les détails avec Ezekiel Mouzalia.
Cette rencontre s'est articulée autour des thèmes tels que des dispositions légales sur la participation effective des femmes au prochain cycle électoral de 2023. Les participants ont également réfléchi sur les obstacles qui bloquent la mise en œuvre de la parité hommes et femmes dans les instances de prise de décision. Angèle Ouvonne Akoumou.
Dans nos territoires, rares sont des hommes qui acceptent à ce que les femmes aient des postes de responsabilité. Hier, on est en train de nous miroiter que les femmes ne sont pas capables. Elles sont bonnes à rien. Nous devons militer que nous ayons au moins 30% de femmes élues.
De son côté, le secrétaire exécutif provincial de la CENI invite ces femmes à saisir cette opportunité comme celle prévue par l'article 13 de la loi électorale qui les exempte de la caution électorale au cas où elles sont valablement représentées dans un parti politique. Jimmy Anga.
La loi électorale, dans son article 13, toute liste qui aura présenté au moins 50% de femmes ne paiera plus la caution électorale. Mais ensuite, les femmes doivent aussi se positionner dans les partis politiques.
Les participantes s'engagent à soutenir et à étendre la sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs qui débute au mois de février 2023 en Ituri. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, dans la province de la Tchopo, il s'est ouvert mardi le forum sur l'unité, la cohésion, la paix et le développement de l'espace Grand Oriental. Ces assises de 4 jours ont été ouvertes officiellement par les gouverneurs des provinces intérimaires Paulin Lendengolia et connaissent la facilitation de Mgr Marcel Outembi, archevêque de Kisangani. Celui-ci a déterminé 3 thématiques qui seront abordées au cours de ces assises. Il s'agit de l'unité, la paix, la sécurité, le développement socio-économique et la coopération interprovinciale. Et enfin, la gouvernance, la participation et le leadership politique. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Sur le plan sécuritaire, Monseigneur Marcel Outembi a fustigé la présence des groupes armés locaux et les conséquences qui en découlent. Du point de vue socio-économique, il a dénoncé l'exploitation anarchique des ressources naturelles, l'effondrement des activités économiques, le délabrement des infrastructures socio-économiques de base et la paupérisation de la population. Sur le plan de la gouvernance et leadership, il a épinglé la faible représentativité des fils et filles de cet espace dans les institutions nationales, le manque de cohésion et de solidarité entre les membres de cet espace et le faible rayonnement des partis politiques. Ainsi, Monseigneur le Président a engagé les participants à s'efforcer d'identifier les voies et moyens appropriés pour relever les défis. Il les a exhortés aussi à trouver des stratégies devant aider l'espace Grand Oriental à promouvoir et construire l'unité, la cohésion, la paix et le leadership collectif. La solidarité et le développement des quatre provinces de l'espace Grand Oriental et de la RDC doivent également les préoccuper. Enfin, Monseigneur Marcel Outembi a exhorté les participants à ces forums à travailler activement afin de prendre des résolutions et recommandations fortes susceptibles d'amener l'espace Grand Oriental et la RDC vers le lendemain meilleur sur tous les plans. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis bonne nouvelle pour la province du Kassai Oriental, bientôt le ciment gris sera produit dans le territoire de Katanda. Le permis d'exploitation de la cimenterie de Lubilangi Siloubi a été remis ce week-end à l'entreprise Bulaba Bwentu Biuma BBB en sigle du patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, ancien président administrateur délégué de la société minière de Bakwanga Miba. Cette nouvelle enchante les habitants du Kassai Oriental qui souhaitent que les autochtones enterrent la hache des guerres pour l'intérêt de toute la province. Les détails avec Esther Ndalafine.
Le président du conseil d'administration de l'entreprise Bulaba Bwentu Biuma, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, affirme qu'après 30 ans de démarche, enfin le ciment gris sera produit dans le territoire de Katanda au Kassai Oriental. Selon lui, la mise en œuvre de ce projet concourt au développement de l'espace Kassai qui importe le ciment gris pour les travaux de construction dans les provinces du Haut-Katanga, de Lualaba, de Kinshasa ainsi que de la République d'Angola. Une autre importance réside dans la création de plusieurs emplois pouvant résorber le chômage décrié aujourd'hui par les jeunes. Plusieurs entreprises s'intéressent à l'investissement dans ce secteur depuis l'annonce de l'octroi du permis d'exploitation, déclare Jonas Mukamba. Il estime que d'ici une année, le Kassai Oriental peut devenir exportateur de cette matière. Cette nouvelle est bien accueillie par les habitants de la province du Kassai Oriental. Certains estiment qu'il est temps pour les autochtones d'enterrer la hache de guerre et de s'occuper du développement. D'autres, par contre, demandent à l'initiateur de ce projet, qui est par ailleurs ressortissant de ce territoire, de ne pas exclure par vengeance les autres autochtones suite au conflit foncier qui les oppose depuis plusieurs années. Signalons qu'un sac de ciment gris coûte actuellement $30 sur le marché. La production de cette matière au Kassai Oriental peut diminuer en deux le prix de sac de ciment ou encore les réduire sensiblement au cas où toutes les conditions de production, dont l'énergie électrique, sont requises, affirment certains observateurs. Dans la fina, Mbujimaï, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Près de 100 lauréats de l'Université Simon Kimbangu ont été déversés ce mardi 26 décembre sur le marché de l'emploi. C'était à l'issue d'une cérémonie de collation des grades académiques organisée au centre d'accueil kimbanguiste de Kinshasa. Le recteur de cette institution universitaire a attribué la réussite de cette année académique à l'implication du corps académique, scientifique et celle des parents. Reportage Blaise Ndongala, Mayanda.
C'est sur ces rythmes de la fanfare kimbanguiste que les lauréats ont tour à tour défilé à la tribune érigée pour la circonstance afin de recevoir leur diplôme symbolique. Ils ont ensuite remercié les professeurs et encadrés de leur université pour leur accompagnement tout au long de leur cursus académique, comme les souligne l'un d'eux.
Chères autorités, nous sommes donc très reconnaissants envers nos enseignants qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont su tenir les coups pour nous fournir un encadrement vivant.
Pour sa part, le recteur de l'université Simon Kimbangu a félicité les lauréats pour leur abnégation et détermination durant leur parcours. Il a salué l'implication des corps académiques et scientifiques de cet établissement universitaire pour la réussite de cette année. Professeur Blaise Mouya.
Nous profitons de l'occasion pour réitérer nos sincères remerciements aux membres du comité de gestion, au personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier pour leur accompagnement sans lesquels nous ne serions réalisés L'immense tâche, c'est d'encadrer et de former la jeunesse congolaise.
Au cours de l'année académique 2021-2022, l'université Simon Kimbangu a organisé cette faculté dont les droits, les sciences informatiques, les sciences sociales, les sciences agronomiques et la théologie.
Actualité internationale.
En Tunisie, un groupe de ressortissants des pays subsahariens est menacé d'expulsion depuis une décision du gouvernement de Najla Bouden annoncée jeudi 23 décembre. Arrivés en Tunisie en 2011 via la Libye, ils doivent désormais rentrer dans leur pays respectif dans les plus brefs délais, juge Tunis. Une ONG spécialisée dans la question migratoire a exprimé son indignation devant la décision répressive et inhumaine.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Luc Loutala, le chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simoncel. Il nous parle du rapport sur les observations préliminaires que cette synergie a publié lundi dernier sur les deux premières journées de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée le samedi 24 décembre dans la première ère opérationnelle. Luc Loutala s'entretient ici avec Grace Amouzati. Suivez.
Monsieur Luc Loutala, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié un rapport sur l'opération d'enrôlement qui a débuté samedi dernier dans la première ère opérationnelle. De manière résumée, qu'est-ce que vous avez constaté?
Le constat est suffisamment très alarmant. D'abord, on a vu que la formation en cascade des agents de la CENI, hein, ça veut dire aux différents niveaux, les territoriaux, les MCI, les superviseurs et tous les autres, les formations n'étaient toujours pas finies, les contrats n'étaient toujours pas signés et les gens n'étaient toujours pas déployés jusqu'à la veille, même jusqu'après le lancement. En ce qui concerne la sensibilisation dans les différentes provinces, c'est une absence totale de sensibilisation de masse qui a été observée. Hein. Tout au plus, on a observé un peu le déploiement des hauts cadres de la CENI qui ont tenu des cadres de concertation juste la veille. Il faut noter aussi par rapport à l'accréditation, la CENI n'a pas accrédité dans toutes les provinces. Il n'y avait pas d'instructions qui étaient données. Et c'est vraiment deux jours avant qu'un message va circuler, mais pas des instructions comme telles. Vous savez, deux jours avant... les CEP avec toute l'équipe n'ont plus du temps d'être au bureau, ils sont déployés. Mais tout ça se mesure sur le lancement même de la RFE. On s'est rendu compte que juste deux jours avant, les gens ne savaient pas vraiment quelle était la cartographie des bureaux de vote. Mais finalement, on regarde l'ouverture du bureau de vote. Le jour de lancement, il n'y a presque pas un seul bureau qui a ouvert à l'heure fixe. Hein. Évidemment, il y a des bureaux qui ont ouvert autour de 10 heures, d'autres qui ont ouvert à 11 heures, et puis chacun a ouvert à son heure. Et on a même, par exemple, à Kinshasa, des bureaux qui ont ouvert seulement que le lendemain. Il faut constater que ce déploiement ne s'est pas fait sur l'ensemble des territoires qui concernent l'ère opérationnelle 1. C'est surtout dans les chefs-lieux. Ça veut dire que maintenant, au niveau des territoires, il n'y a vraiment pas eu de lancement de l'opération, la RFE elle-même en tant que telle. Il y a la CENI qui a beaucoup misé sur le fonctionnement de matériel, notamment la technologie miraculeuse sur laquelle la CENI avait beaucoup misé pour gagner du temps, qui était l'application pré-rap CENI. Cette application n'a pas fonctionné du tout. D'ailleurs, elle a été la cause du blocage des machines. Toutes les machines ont connu des pannes hein, suite à la tentative d'utilisation de cette application pré-rep. On va arriver que le premier jour, les CI, évidemment, il y en a qui ont deux machines, il y en a qui ont une seule machine. Et la tendance a nagé entre 15 personnes qui ont été inscrites au premier jour et 30 personnes le premier jour. 30, c'est pour... vraiment 30-34 personnes, les centres qui ont deux machines. Et donc, ce qui a ramené le deuxième jour, que presque tous les centres d'inscription ont abandonné l'application, ont travaillé avec la manière classique. On a observé aussi par rapport au déploiement de matériel que parfois les membres des MCI qui ont même pris en charge le déplacement de matériel, et même au niveau de province, au moment où nous parlons, il y a encore des déploiements qui ne sont pas faits.
Toutes ces observations ont été faites par la Simoncel ou vous vous êtes basé sur des témoignages dans les réseaux sociaux?
Mais non, la Simoncel est déployée. Même personnellement, je parle avec vous maintenant, je suis en province. La Simoncel est déployée dans la plupart de ces provinces. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Hein.
Bilan, deux jours après les débuts de l'opération, est-ce que ce n'est pas un peu tôt?
Le but de la CIMOCEL n'est pas de flageller la CENI. Le but n'est pas de donner un bilan. C'est pas un bilan, ce sont des observations préliminaires. Le but d'une mission d'observation, c'est de contribuer à l'amélioration du processus. Et donc, le but n'est pas de dire maintenant que l'opération a échoué. Mais si la CENI ne tire pas des leçons, si la CENI ne prend pas en compte les observations qui sont faites, après, il va falloir évaluer à la fin et voir si l'opération a réussi. Mais il faut exactement dire que dans un processus électoral, le succès de la révision du fichier électoral est de haute importance. Et si on échoue l'opération d'inscription des électeurs, on aura échoué tout le processus.
Que recommandez-vous alors à la CENI pour améliorer ?
On a recommandé à la CENI, premièrement, d'impliquer les parties prenantes. Hein. Il y a eu une recommandation aussi sur l'accréditation. Il y a eu une recommandation sur le fait que la CENI doit absolument évaluer son équipe de sensibilisation, hein, ou tout au moins, la CENI doit vraiment changer cette équipe de sensibilisation qu'elle a. Et puis, éventuellement, il y a la publication des outils, les outils de planification de la CENI. La CENI doit impérativement publier le budget et le plan logistique pour aider les parties prenantes à comprendre pourquoi elles peinent.
Luc Loutala, merci.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal. La mise en onde était assurée par Mimi Kindou. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination de Kéline Kouté et la supervision de Martin Sebujang. Merci également à vous pour votre particulière attention.